Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, Xhaka all'ingresso in area ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete, Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet, Toni! Pirlo ancora, Pirlo di tacco, tiro, gol di Grosso. Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci prova con il testo,
e la rete, si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard Pacini, salut Guillaume!
Bonjour Monsieur Van Crochet et bonjour tout le monde.
Guillaume, trois journées de Serie A,
ouais.
Première petite trêve internationale, il y en aura d'autres d'ici la fin de l'année. Ça nous permet de faire un petit bilan sur deux équipes qu'on n'a pas encore évoquées dans nos petits podcasts d'actu depuis la reprise là au mois d'août. On va parler de l'Inter aujourd'hui, mon cher Guillaume.
Leader,
et en plus après la trêve, on a quand même un très alléchant derby de Milan. On a parlé du Milan dans le dernier épisode, là on va embrayer sur l'Inter, on va parler d'abord du mercato, voir un peu ce qui a été fait, et il y a beaucoup de choses, beaucoup de mouvements du côté de l'Inter, et puis ensuite on parlera du début de saison avec les 3 victoires, 8 buts marqués et 0 encaissés. Alors Guillaume, je te propose de revenir un peu sur le déroulé du mercato estival, et je te propose, plutôt que de faire le name dropping arrivé et ensuite départ, je te propose de faire les joueurs qui ont remplacé ceux qui sont partis.
D'accord. Okay.
Comme ça, on verra un peu et on pourra évaluer, et tu me diras ce que tu en penses toi, si l'Inter se retrouve un peu gagnant ou perdant de ce mercato-là, en fonction de qui a remplacé qui. Alors, dans les buts, on a eu deux changements principaux. Audero a remplacé Handanovic, qui est parti, et Yann Sommer a remplacé Onana. Alors, en défense, il y a eu pas mal de mouvements. Alors, je les ai coupés un peu comme j'imagine que ça va se passer. Pavard remplace donc Skriniar. Bissek remplace dans l'esprit D'Ambrosio. On a Carlos Augusto qui remplace Robin Gosens. Et on a Cuadrado qui remplace Bellanova. Au milieu de terrain, alors là, on n'a pas de correspondance parfaite sur le rôle, mais Fratesi compense le départ de Brozovic dans le secteur du milieu de terrain, parce que évidemment Fratesi n'est pas un milieu devant la défense. Et ensuite, on a Davy Klaassen qui remplace Roberto Gagliardini. Et offensivement, on a quand même 75% de la ligne d'attaque qui a changé, mon cher Guillaume. Thuram pour Lukaku, Arnautovic pour Dzeko et Alexis Sanchez de retour pour Joaquin Correa qui lui est parti à Marseille à la place de Alexis Sanchez. Donc beaucoup de mouvements quand même, Guillaume, hein, aussi bien d'ailleurs chez les titulaires que chez les remplaçants, parce que si on prend les titulaires, Onana, Skriniar dans l'esprit, même si on sait que la deuxième partie de saison
bien était sûr, un peu oui.
Hier, Brozovic, Lukaku, alors Lukaku ou Dzeko, hein, on a quand même quatre titulaires, et ensuite on a dans les premiers remplaçants, entre guillemets, on avait quand même Gosens, l'autre Lukaku ou Dzeko, Correa, donc on a quand même, du côté de l'Inter, renouveler pas mal un effectif qui avait déjà donné satisfaction avec la finale de Ligue des Champions en se disant bah, il y a besoin d'un petit peu de sang neuf.
Oui, exactement, mais c'est un vrai débat hein, qu'il y a en Italie ou qu'il y a eu du moins après la fin du mercato parce que comme tu l'as dit Johan, l'Inter a quand même perdu 4-5 titulaires hein, parce que même si Skriniar à la fin évidemment on le sait, voilà, c'était un peu le capitaine déchu, il a été blessé. On savait qu'il est parti au PSG, mais dans l'esprit, on va dire qu'il était quand même titulaire en tout début de saison. Donc, il y avait forcément… ça restait quand même une perte importante pour l'Inter, qui avait appris à faire sans lui. Mais en tout cas, ouais, il y a vraiment eu un débat sur le fait, est-ce que l'Inter s'est renforcé ou non. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un renouvellement. On sait aussi que l'Inter, Johan, a des comptes en délicatesse. C'est moins de le dire. Donc… évidemment, quand on a une offre, par exemple, comme celle pour Onana, qui est parti à Manchester pour 60 millions des poussières, c'est une offre qui est quasiment impossible à refuser pour n'importe quel club italien. Johan, on se regarde de l'autre côté de Milan, Tonali est parti quasiment pour le même montant à Newcastle. Donc, dans l'esprit, il y a des offres aujourd'hui pour les clubs italiens qui sont quasiment impossibles à refuser. On sait que la Juve l'a attendu longtemps pour Vlahovic, même pour Chiesa, c'est pas arrivé, mais voilà, aujourd'hui, un club italien refuse difficilement une somme aussi grande. En tout cas, l'Inter, pour moi, sur le papier, elle ne s'est pas vraiment renforcée, mais elle s'est renouvelée. Après, sur les trois premiers matchs, on en parlera après, c'est certain qu'on voit quelques différences dans le jeu, mais on voit une équipe quand même qui est rodée, avec un Simone Inzaghi qui a été renforcé, notamment par le parcours en Ligue des Champions la saison dernière, mais… sur le papier, en tout cas, Johan, moi, je ne te dirais pas qu'elle s'est renforcée. Voilà, elle s'est renouvelée. Il y a un milieu de terrain pour moi qui est très fourni. Et sans te mentir, j'avais un peu de mal à comprendre aussi l'arrivée finalement avortée de Samardzic. Parce que pour moi, le milieu de terrain est vraiment assez fourni. Et quand on voit que Sensi, par exemple, n'a pas été appelé dans la liste UEFA, bah, ça en dit long quand même sur le fait que voilà, lui est resté pour, on va dire, jouer le rôle de numéro 6. Fratesi pour l'instant a joué que 60 minutes en 3 matchs, donc tu vois il y a quand même un milieu de terrain qui est assez fourni, mais dans l'esprit en tout cas l'Inter a perdu 4-5 titulaires, les a remplacés par des éléments, on a vu que Bissek aussi doit s'intégrer, Klaassen vient d'arriver, donc il y a des joueurs qui ne sont pas forcément prêts maintenant, donc sur le papier elle ne s'est pas renforcée mais elle s'est renouvelée, je ne sais pas si tu es d'accord là-dessus.
Alors pour moi il y a une vraie interrogation sur la ligne d'attaque. Parce que sur la ligne défensive plus milieu de terrain, pour moi, c'est équivalent à la saison dernière. Parce que je pense que Sommer est un bon gardien, mais je ne sais pas s'il aura l'influence et le niveau de performance de Nana la saison dernière. Mais dans le même temps, Pavard pour Skriniar, pour le Skriniar qui n'a servi à rien en deuxième partie de saison, ça me semble être un fit intéressant. Surtout que Pavard veut jouer dans l'axe et que axe droit, ça devrait plutôt bien lui convenir. Tu vois, Bissek d'Ambrosio, je suis pas sûr qu'il y ait une énorme perte. Carlos Augusto Gosens, ça me semble un peu à la Paris, comme on dit là. Pour moi, c'est à peu près équivalent. Cuadrado Bellanova, je pense que Cuadrado, c'est meilleur que Bellanova. Et au milieu de terrain, si on part du principe que Çalhanoğlu est désormais installé en tant que 6, et que Aslani aura plus de temps de jeu de cette saison, et c'est mérité, bah finalement, est-ce que tu perds au change dans la rotation entre Fratesi et Brozovic ? je pense pas. Et Klaassen Gagliardini, pour moi, c'est exactement, enfin, peu ou prou la même chose, même si les profils sont un peu différents. Donc, sur le secteur défensif milieu de terrain, je vois plutôt ça
comme une stabilité.
Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est équivalent. Je suis pas mécontent des choix qui ont été faits. Il y a un gros point d'interrogation sur Sommer quand même, parce qu'Onana a été à un tel niveau de performance la saison dernière que, mine de rien, ce sera assez dur de faire au moins aussi bien. Par contre, sur la ligne d'attaque, j'ai des vraies incertitudes, parce que là où Dzeko était une certitude dans ce club de l'Inter, au niveau pour la Coupe d'Europe comme pour le championnat, dans la faculté à faire jouer les autres, je ne sais pas si Arnautovic peut avoir ce niveau-là, sans compter qu'Arnautovic a été régulièrement blessé quand même ces dernières années, et donc, alors que Dzeko n'a pas eu énormément de pépins physiques. Lukaku, on ne peut pas dire qu'il ait connu une très grande saison l'année dernière, hein, très sincèrement, souviens-toi ce qu'on en disait, entre les blessures, l'imbroglio post-Coupe du Monde, les énormes ratés quand il est revenu, les ratés aussi en finale de Ligue des Champions. Je pense que Thuram, ça peut le faire. Et puis après, on verra Alexis Sanchez pour Correa. Correa, finalement, n'a pas servi à grand-chose. Je trouve, la saison dernière, un joueur qui était quand même un peu en perte de vitesse, un peu beaucoup même, du côté de l'Inter, par rapport à ce qu'il était à la Lazio. Et donc, Alexis Sanchez, a priori... souviens-toi, les entrées qu'il faisait à l'Inter avant de partir à l'OM, les entrées étaient bonnes, il était souvent décisif. Mais voilà, c'est plutôt sur le niveau des titulaires... Enfin, des trois titulaires par rapport à la saison dernière. L'année dernière, il y avait Lautaro, Lukaku, Dzeko. Là, ouais. Lautaro, Arnautovic, Thuram, on verra, notamment en Coupe d'Europe, ce que ça peut donner. Mais que l'effectif n'ait pas été renforcé, je suis assez d'accord. Mais par contre, je trouve qu'il ne s'est pas affaibli non plus. Je trouve que c'est assez égal.
Tu sais, en attaque, tu parlais de Dzeko, c'est vrai que, alors, on sait qu'il y a toujours des phases un peu des trous d'air, notamment en deuxième partie de saison, mais la saison dernière, si tu regardes un peu les stats, il a quand même fait 52 matchs. Pour un joueur de son âge, c'est quand même pas rien. Ouais. Marqué 14 buts, donné 5 passes D. En demi-finale de Ligue des Champions, il marque dans le derby aller. Donc, c'est sûr que Thuram, alors, il a très bien commencé, on va en parler, sa saison, notamment le dernier match contre la Fiorentina. Mais c'est évident qu'on va dire que tu as moins de certitude sur les trois premiers choix. Tu as évidemment Lautaro aujourd'hui qui est un joueur de classe mondiale. On le voit qui a 5 buts et qui a pris une dimension aujourd'hui vraiment internationale. C'est vraiment le top player aujourd'hui par excellence. C'est certain que derrière, tu vois, le choix Sanchez, je peux comprendre sur le papier. Après, du côté du joueur, c'est assez paradoxal parce qu'à l'époque, il s'en va. Tu te rappelles avec Inzaghi, ça avait été un peu... Voilà, il y avait quelques frictions.
Les posts Instagram, machin.
Oui, bah exactement. Il avait dit, moi, je ne veux pas être un numéro 4, j'ai une fin de Lyon. Il revient quand même dans la peau du numéro 4, derrière Lautaro, Thuram et Arnautovic. On va dire que le poste se joue avec Arnautovic. Donc, est-ce qu'il acceptera mieux ce rôle-là qu'à l'époque? C'est à voir. On sait que l'Inter a beaucoup discuté avec lui et Inzaghi aussi avant de le rapatrier. Mais voilà, il va falloir aussi gérer un peu le cas Sanchez. Mais voilà, moi, je suis assez d'accord avec toi sur les trois premiers choix d'attaque après Lautaro, évidemment. Quand tu avais quand même Dzeko, Lukaku qui s'alternait. Alors, Lukaku, tu l'as dit, il n'a pas fait une bonne saison, mais on peut dire qu'il a quand même plutôt bien fini. Où il rentre en finale des champions, ça ne se passe pas très bien. On va dire que sur le post-Coupe du Monde, il marque contre Naples. C'était Dzeko qui marque contre Naples au retour du Mondial. Mais il avait plutôt bien fini une fois que la blessure était passée, au point que l'Inter, quand même, Johan avait voulu le garder, hein, mine de rien.
Bien sûr.
Donc, on va dire qu'il avait plutôt bien fini, mais c'était évidemment pas le Lukaku de l'époque Conte. Mais on va dire que devant, la ligne d'attaque, voilà, forcément perdue, peut-être en garantie.
Parce que quand t'as en fait, c'est simple, Guillaume, regarde. Ouais. Replaçons-nous au début de la saison dernière. Et on te dit, tu préfères, enfin, si t'es supporter de l'Inter, tu préfères avoir Lautaro, Dzeko, Lukaku ou Lautaro, Thuram, Arnautovic. Je pense que la réponse, elle était assez claire.
Oui, bien sûr.
Là, finalement, c'est le déroulé de la saison dernière qui nous fait dire sur Lukaku, bon, un peu fragile, il a raté des grosses occasions, etc. Mais tu avais quand même beaucoup plus de certitude au début de la saison dernière avec les trois noms que je viens de donner plutôt qu'en ce début de saison. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir hein, cette saison, les trois nouvelles recrues. Mais sur le papier, parce que pour le moment, on est obligé de juger simplement sur le papier, parce qu'on n'a pas eu assez de matchs ou d'échantillons de matière, entre guillemets, pour voir. Bah, c'est sûr que ça paraît un peu plus risqué, entre guillemets, ou un peu moins certain, un peu plus incertain.
Exactement. Et surtout que Lukaku, il y a rien juste pour rajouter, l'Inter va le garder. Je pense que les tifosi aussi, avant tout ce qui s'est passé cet été, l'auraient bien gardé aussi. Et quand même, Johan, la saison dernière, Lukaku, ça reste 37 matchs, 14 buts, plus 7 passes décisives. Donc, tu vois, sur le papier, malgré toutes les turbulences qu'il a connues pré-mondial et post-mondial, blessures et en coulisses, etc., il a quand même apporté 15 buts, on va dire, sur l'ensemble de la saison, ce qui, en soi, avec les nouveaux arrivants, n'est pas encore certain, même si pour l'instant, on va dire que pour Thuram, ça a plutôt bien commencé.
Ce qu'il faut rappeler aussi, Guillaume, tu l'as dit au tout début là, du podcast, tu parlais de la situation financière du club. Il faut quand même dire que cette saison est un peu cruciale parce qu'en mai 2024, donc dans, j'allais exagérer en disant dans 6 mois, donc un peu plus, dans 9 mois, l'Inter a le très gros prêt octroyé par Octree à rembourser. Et ce prêt qui était quasiment de 300 millions d'euros avec les intérêts est passé à quasiment 400 millions d'euros. Et dans le milieu circule quand même que l'Inter aura beaucoup de mal à le rembourser. Alors, il y a deux solutions. C'est soit ils ne le remboursent pas et Octree, puisqu'ils avaient mis cette clause-là dans le contrat de prêt des 300 millions d'euros, récupère le club. Et donc là, à ce moment-là, on a un nouveau propriétaire à l'Inter, d'ailleurs, comme l'avait fait Elliott, souviens-toi, du côté de l'AC Milan.
Pour, à l'époque chinoise.
Le fameux, le très fameux Yonggong Lee. et la deuxième option étant l'Inter, donc Suning et Zhang, décident de renégocier l'échéance du remboursement du prêt avec Octree, mais à ce moment-là, bah, tu repars sur des nouveaux intérêts, sur peut-être une pénalité économique aussi. Donc, tu alourdis un petit peu ce que tu vas devoir rembourser. Donc, ce n'est pas toujours très simple aussi à gérer du côté de l'Inter. Sur quel pied danser sur cette saison qui paraît enthousiasmante d'un point de vue sportif, mais qui paraît aussi un petit peu stressante sur le plan économique.
Mais comme tu disais, c'est quelque chose en Italie qui est assez notoire. Et même du côté des tifosi, j'ai l'impression que la situation économique est quand même assez claire pour tout le monde, au point que les demandes de vente ou de la part de Suning quand même sont assez fréquentes, parce qu'on sait que voilà, le groupe chinois est vraiment plutôt en difficulté, même si Steven Zhang est très impliqué dans le club. C'est pas pour rien si dans le mercato chaque opération, chaque million d'euros est calculé. C'est pas pour rien qu'il y a aussi beaucoup, Johan, des prêts avec obligation d'achat repoussés à l'année prochaine, comme avec Fratesi par exemple. Donc on s'attend quand même, comme tu l'as dit, à forcément des difficultés quand tu as un prêt aussi gros, avec un taux d'intérêt aussi élevé. Donc c'est une situation quand même qui va être surveillée, parce que l'échéance arrive et on a l'impression quand même d'une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'Inter, où le coup près arrive dans un sens ou dans l'autre, comme tu l'as dit. À l'époque, à Milan, il faut rappeler que du côté de l'AC Milan, à l'époque Yonggong Lee, il y avait quasiment eu l'impossibilité d'inscription à la Serie A. C'est pour te dire à quel point la situation avait été dramatique à Milan. On espère évidemment que ce ne sera pas le cas à l'Inter, et pour l'instant, ça ne l'est pas. Mais on voit bien quand même en coulisses, comme tu l'as dit, les échos vont tous dans le même sens. Et sur le mercato, on voit bien que le club et BP Marotta en tête se creuse à chaque fois la tête, parce que le budget n'est pas forcément élevé, parce que malgré les rentrées d'argent de la saison dernière en Ligue des Champions, avec ton parcours, ça ne suffit pas à pouvoir refuser des grosses offres, comme pour André Onana, qui était devenu quand même l'un des leaders du SCR après une saison et qui semblait quand même très heureux à l'Inter. Donc c'est une situation quand même qui est très délicate. Comme je l'ai dit au début du podcast, c'est une situation avec des comptes qui sont à surveiller, qui sont étudiés évidemment par l'UEFA. Et c'est quand même assez inquiétant pour un grand club, pour l'Inter. C'est un peu ce paradoxe, comme tu le disais, entre le terrain, où vraiment on a trois matchs qui nous enthousiasmer au niveau du jeu et en coulisses où on sait, tout le monde, journaliste italien, journaliste français, voilà, comme toi et moi qui suivons évidemment de près la Serie A, on sait que la situation est délicate.
Guillaume, tu l'as évoqué, la situation sportive est plutôt très satisfaisante en ce début de saison. Inter Monza 2-0, Cagliari Inter 0-2, Inter Fiorentina 4-0, 3 matchs, 3 victoires, 8 buts marqués, 0 but encaissé. On n'est pas loin d'un bilan parfait. Et à tous ceux qui nous diront « Oui, mais qui est-ce que l'Inter a affronté ?» Ben, je rappellerai que lors des deux premières journées, les deux clubs romains ont affronté des clubs qui se battront pour le maintien et que la Roma avait pris un point et la Lazio en avait pris 0. Donc, ok, le calendrier, mais il y en a qui laissent des points en route. Ce n'est pas le cas de l'Inter.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Qui a été... Alors, les deux premiers matchs ont été contrôlés de manière assez tranquille, surtout celui à Cagliari, hein, où on en parlera peut-être un de ces quatre, hein, Guillaume, mais Cagliari, ça va être...
Ouais, c'est très faible.
Oula, c'est parmi ce que j'ai vu de plus faible ces 5-6 dernières années, on va dire. Vraiment, il n'y a quand même pas grand-chose.
Je pense que le bon Claudio n'arrivera pas à faire un miracle.
Ouais, si, il peut le faire, parce qu'il l'a déjà fait ailleurs, mais... Non, c'est compliqué. C'est surtout le match contre la Fiorentina. Alors, là encore, on va nous dire, mais la Fiorentina avait joué le jeudi soir, un match très long, très compliqué, en Conference League, enfin en barrage de Conference League. C'est vrai aussi, mais en fait, ils se sont rendus, un, le match facile, deux, la Fiorentina n'a jamais existé parce que l'Inter les a empêchés de jouer, et trois, même les quelques individualités qui sont capables à la Fiorentina de faire des différences, je le répète, individuelles, en se mettant sur des situations de 1 contre 1 comme Nico Gonzalez, n'ont jamais été en mesure de se mettre en route et de créer le quelconque danger vraiment sur les buts de l'Inter.
D'ailleurs, Italiano l'a dit en conférence de presse après le match, où il s'en est un peu voulu des choix qui a fait en disant bah voilà, il y a eu un match il y a 3 jours, j'aurais pas dû faire jouer les mêmes joueurs, je me suis basé sur l'aspect mental, c'est des erreurs, mais comme tu l'as souligné, Johan, moi ce qui m'impressionne assez avec l'Inter, déjà je trouve que le jeu est un peu plus vertical que les sons d'avant, c'est beaucoup plus rapide dans les transitions, mais tu vois, alors c'est vrai que les 3 premiers matchs, voilà, on voit que c'est une équipe de Monza qui est pas la même que la semaine dernière, Cagliari, tu as dit, c'est très faible. La Fiorentina était peut-être un peu fatiguée, mais ces 3 matchs, quand même, avec une typologie assez différente, à part peut-être Monza Cagliari, mais on a vu en première mi-temps contre la Fiorentina que l'Inter a laissé plutôt le ballon à l'équipe d'Italiano, et dès qu'elle le perdait, ça contrait, et ça allait très très vite, avec un Marcus Thuram qui a fait un très grand match, à un tour de joueur à la finition. Mais voilà, moi, ce qui est impressionnant, c'est la capacité à chaque fois de l'Inter d'imposer son jeu, mais aussi de s'adapter à son adversaire. C'est-à-dire que, voilà, elle sait que Inzaghi, qui est voilà, tactiquement toujours très préparé, sait que Italiano adore le ballon, adore la possession. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui laisse la plus grande partie du temps, et à la perte du ballon, on contre. C'est passé sur le premier but, où je crois que c'est Arthur qui perd le ballon, et tout de suite, en 3-4 passes, bon, on a le premier but de Thuram. Donc, voilà, l'Inter est vraiment impressionnante dans la force aussi collective qu'elle dégage, pardon. Et comme je te disais tout à l'heure, Johan, j'ai aussi l'impression de voir une équipe qui, tu sais, a beaucoup d'autoconviction. Alors certes, elle a perdu cette finale face à Manchester City l'année dernière. Certes, elle a été renouvelée, on a parlé sur le mercato, mais on voit quand même qu'on a un entraîneur qui est légitime, malgré quand même les turbulences qu'il a pu connaître la saison dernière, donc qui a été légitimisé par son parcours. Une équipe renouvelé qui adhère quand même à ce discours-là et à ce qui est proposé en ce début de saison. Et on voit des nouveautés aussi tactiques et techniques sur le terrain. Et pour l'instant, ça marche. Et peut-être que la donnée la plus impressionnante, Johan, c'est le fait que l'Inter n'a pas pris un but. En Italie, c'est la seule équipe à l'avoir fait. La Roma en a encaissé, Milan en a encaissé, la Juve en a encaissé, Naples en a encaissé. Et c'est vrai que l'Inter, au niveau défensif, voilà, cette capacité vraiment à défendre en bloc, ce n'est pas uniquement les défenseurs qui défendent, c'est vraiment une, voilà, la perte du ballon, on attend. Et je suis très curieux, Johan, de voir le derby, de voir si Pioli est capable de contrer Inzaghi, d'apprendre des erreurs qui ont pu être commises la semaine dernière, parce que cette année, ce sera quasiment le cinquième derby, je crois. Si on compte la Supercoupe, les deux derniers champions du championnat, où Milan n'avait pas marqué un but, l'Inter avait gagné ces cinq matchs-là, et ces quatre matchs-là, pardon, et je suis curieux de voir vraiment si, voilà, si Inzaghi va attendre encore Milan dans le derby, ou est-ce que c'est Pioli cette fois qui va dire bon, on recule un peu, on va laisser jouer l'Inter pour les prendre à leur projet concret. Donc voilà, je suis un peu curieux de voir ce derby-là, mais en tout cas, voilà, ce début de saison-là, de la part de l'Inter, honnêtement, au vu des confrontations, voilà, le niveau comptable, on pouvait s'y attendre, mais dans le jeu, pour moi, on voit vraiment des nouvelles choses qui sont assez intéressantes.
Juste pour comprendre un peu les stats de ce match contre la Fiorentina, en première mi-temps, la Fiorentina, c'est 0,02 expected goals. Il y a deux espèces de tirs, on les appelait comme ça, de l'extérieur de la surface. L'Inter qui se crée 1,52 expected goals juste sur la première période avec 10 tirs, avec 4 grandes occasions, donc 3 ratés. On a vu Marcus Thuram qui ratait des grosses occasions avant de lui trouver le chemin des filets. Et puis en deuxième mi-temps, on est sur quelque chose un coefficient de dangerosité offensive du côté de l'Inter qui a multiplié encore les grosses occasions. Ils finissent quand même avec 8 grosses occasions de marquer. C'est extrêmement rare d'en avoir autant dans un match de football. 21 tirs, quasiment 4 expected goals. Ils ont mangé tout simplement la Fiorentina qui avait une possession un peu stérile où ils ne parvenaient pas vraiment à percer les lignes de l'Inter. Ils avaient aussi peut-être pas les ressources physiques pour aller provoquer des 1 contre 1, pour les gagner, c'est 1 contre 1, alors que l'Inter les a mangés aussi sur l'aspect athlétique. Mais ça a été vraiment un match impressionnant où on a revu les circuits de passe de cette équipe de l'Inter avec cette recherche fréquente en transition du couloir de Di Marco qui prend très très vite son couloir et qui va ensuite accélérer pour venir centrer et alimenter Thuram et Lautaro dans la surface, ou même Dumfries qui se projette au deuxième poteau. On a cette, pour moi, c'est un, même si elle est, bon, allez, on va dire qu'elle est encore plus à l'aise en transition, mais c'est quand même un peu une équipe caméléon, cette équipe de l'Inter. Elle est capable de tout faire. Ce qu'elle fait de mieux, sans doute, c'est la transition. Mais même en phase de possession, elle est capable de mettre en danger pas mal d'équipes. Donc, on a retrouvé les grandes qualités qu'on a vues de l'Inter depuis plusieurs saisons maintenant, avec quelques interprètes nouveaux sur le terrain. Mais je pense qu'il faudra être costaud quand même pour aller chercher l'Inter cette saison. Je mets aussi le Milan dans le lot, hein, parce qu'ils m'ont bien plu. Il y a peut-être eu de plus gros changements encore à Milan dans la structure de l'effectif. Mais vraiment, je suis très enthousiaste sur le début de saison de l'Inter, sur ce qu'ils ont proposé. Et mine de rien, cette année, il faut prendre des points rapidement parce que, autant tu te souviens, les autres années, il y avait un groupe de Ligue des Champions où il y avait minimum 2 costauds et puis un petit peu moins costaud. On va le dire comme ça, où tu avais, alors je ne me rappelle plus de toutes les saisons de Ligue des Champions, mais si on reprend rien que l'année dernière, Guillaume, il y avait le Bayern et le Barça.
Ouais,
de mémoire. Là, cette année, du côté de l'Inter, on a Benfica, que l'Inter avait battu en quart la saison passée. On a Salzbourg et la Real Sociedad. Alors, ce n'est pas finalement si simple que ça parce que tu n'as aucun match où tu peux te reposer. Et surtout, on a des équipes avec un jeu moderne. Si on prend par exemple, je te dis une bêtise, mais si on prend City, tu peux te dire que contre l'Étoile Rouge ou les Young Boys, bon, ça peut aller. Si tu prends le Barça, tu te dis le Shakhtar qui n'est plus vraiment le grand Shakhtar de l'époque. Et en vert, ça peut être un peu plus simple. Le Bayern et Manchester qui se disent bon, Copenhague et Galatasaray, c'est bon. Là, je trouve qu'il n'y a aucun match qui sera vraiment évident, tu vois, où tu te dis, bah, ce soir, tu t'attends facile à une victoire. Donc, c'est bien d'engranger des points très tôt, dès le début de la saison. Et l'Inter est vraiment dans un chemin là, de... Je ne sais pas si on doit dire de progression, de confirmation, ou d'étendre un peu sa domination. Mais j'aime bien ce qui a été fait sur le marché des transferts. J'aime bien ce qui a été fait depuis le début de la saison. Je suis content pour Simone Inzaghi qui a été critiqué, voire même lynché par certains anciens joueurs. D'ailleurs, la bande de Adani, Vieri, Cassano, Ventola, on n'était pas loin du lynchage hein, l'année dernière. Un moment où
la bande de la Boboti.
Ouais, c'est ça, de la Boboti Vou. Quand ça n'allait pas fort en championnat et que l'Inter perdait des points, ils nous ont clairement fait comprendre que c'était un imbécile et qu'il ne savait rien faire, Inzaghi. Donc, et puis après, quand ça arrive en finale avec des champions, le discours changeait un peu. Donc,
bon, il a surtout été à un pas de gagner la Ligue des Champions, mine de rien, parce que la finale s'est jouée à pas grand chose. Et on peut rappeler aussi, Johan, c'est tout frais. Il est officiellement prolongé d'un an jusqu'en 2025 avec revalorisation salariale. Donc, tu vois, tout à l'heure, on parle de légitimité et ça va dans ce sens-là. Où Inzaghi, aujourd'hui, est peut-être l'homme fort de ce projet-là. Alors évidemment, on le sait, il y a Beppe Marotta, Piero Ausilio qui sont voilà, dans les bureaux et qui restent très importants, on va dire, pour faire le lien entre le club, la propriété et les joueurs. Mais la vraie force aujourd'hui de l'Inter, c'est Simone Inzaghi. Et pour moi, ce parcours ancien, voilà, il a quand même apporté beaucoup de choses à sa carrière, à son CV. Et ce n'est pas pour rien qu'il a été prolongé. Donc, voilà, comme tu le disais, ces trois premiers matchs, même si les adversaires n'ont pas toujours été au niveau, il y a quand même un sentiment de force qui se dégage de cette équipe, un sentiment de puissance. Et tu parlais de points, Johan. Tu vois, la Roma quand même... qui on pouvait l'imaginer quand même dans le top 4, c'est encore très tôt pour en parler. Aujourd'hui, elle est quand même à 8 points du duo milanais. Et 8 points, c'est quand même déjà beaucoup à rattraper. Même si la saison est encore très, 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 très longue, il y a 8 points, il y a 5 points avec la Lazio, il y a 3 points avec Naples. Donc, c'est toujours important de prendre des points. Je ne suis pas certain que cette saison-là va finir comme la dernière où Naples roulait sur tout le monde. Elle avait fini avec une vingtaine de points d'avance sur certaines équipes. Donc voilà, engranger des points tout de suite, c'est quelque chose de très important. Et tu arrives quand même avec un derby où c'est la première fois que les deux équipes sont en tête simultanément, avec quand même trois premiers matchs pour chacune qui ont montré des choses différentes, mais qui ont séduit quasiment tout le monde. Donc vraiment, ça va être un derby qui va être hyper intéressant. Rien que pour la physionomie, moi je suis très curieux vraiment de voir comment va se positionner Milan. Comment va se positionner l'Inter? Est-ce que il y aura une opposition de style? Est-ce que Milan va peut-être un peu renier son jeu vers l'avant? Il y a beaucoup de choses qui m'intriguent et j'ai hâte que cette trêve passe parce que ce derby milanais va vraiment être assez dingue à la reprise. Et ça va quand même donner un message pour la suite de la saison, même si c'est encore tôt. Je pense que voilà, on va quand même avoir une tendance qui peut se dégager d'un côté ou de l'autre sur la fameuse deuxième étoile, parce qu'on rappelle que Milan et l'Inter ont 19 titres et que le prochain Scudetto sera synonyme de deuxième étoile, Johan.
Et puis c'est bien de prendre des points maintenant, parce que j'ai le calendrier sous les yeux. De fin octobre jusqu'à début décembre, l'enchaînement nous propose Salzbourg, Roma, Atalanta, Salzbourg, respiration entre guillemets, hein, sans leur manquer de respect contre Frosinone, puis Juve, Benfica, Napoli. Donc là, on est sur 8 matchs, un span de 8 matchs en un mois et demi à peine, où on peut presque dire que tout va se jouer déjà. Et en tout cas, ils vont sans doute pas gagner le championnat, mais ils peuvent aussi le perdre à ce moment-là. Voilà, Guillaume, pour ce premier regard sur le début de saison de l'Inter. On se retrouve rapidement pour un nouvel épisode de Calcio et Pépé, évidemment. D'ici là, on n'oublie pas de mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast. On peut en mettre aussi sur Spotify. Sachez qu'on a 5 étoiles aussi sur Spotify. Donc, n'hésitez pas à aller les mettre aussi sur cette plateforme d'écoute de podcast. Et puis, on se retrouve très rapidement, Guillaume, pour un nouvel épisode de Calcio et Pépé. Ciao, ciao.
Ciao.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.